Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans The Boys Club.
Je l'ai dit juste un tiers.
T'as juste dit Boys.
Moi, je fais la grève. Parce que c'est la mode en ce moment.
Un mot sur trois, un jour sur trois, très bien.
Voilà.
The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité tous les 15 jours, un mercredi sur deux, donc avec Fab.
C'est moi.
Oui, c'est lui. On reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre.
C'est lui.
Et aujourd'hui, on est avec... peut-être l'homme à la voix la plus savoureuse pour les oreilles de France,
le
Thomas O'Brien.
Est un baryton.
Non, c'est une voix de basse pour être précis. Le baryton, c'est plus aigu.
Le mec est chiant.
Si vous avez un début d'érection, c'est normal. Cette voix a cet effet. Thomas O'Brien, tu es photographe.
La rumeur le dit.
Tu as quel âge t'as ? Je sais plus quel âge t'as, 36.
On n'a pas dit qu'on disait pas les âges ?
Non.
Ah ouais,
on a dit qu'on disait pas des trucs, mais pas l'âge.
Zut, okay.
Tu as plus que 35 ans et moins que 40.
Ah, j'ai 36.
Très bien.
T'es pas obligé de jouer, surjouer cette voix de grand corps malade, là ?
Non, alors vraiment, si je surjoue la voix, ça ressemble à ça. Là, nous sommes le matin, donc du coup, non, naturellement, elle doit être à peu près posée ici. Donc,
On est sur la voix du matin. C'est pas,
voilà.
J'ai pas la même voix du matin.
Non,
moi, c'est plutôt « bonjour
!» Une voix de Marge Simpson. Une voix de grand-mère alcoolique.
On n'a pas tous les mêmes cartes à la naissance, tu sais pas.
Oui,
et je n'ai pas la voix de Thomas.
Cet homme a des fabuleux cheveux, également.
Oui, c'est
en termes de cartes.
Toi aussi, femme.
Ça me fait rire. Et pourtant, je pense qu'il y a une loi qui dit qu'on n'a plus le droit de faire des blagues sur les cheveux à Fab qui est chauve depuis quand même genre...
1900, bah, le 20e siècle.
Oh, chaud.
Et
du coup, c'est un peu périmé, tu vois.
Que,
mais...
que passé un certain âge, on ne parle plus aussi de nos âges, non il y a... Donc du non. coup, je me dis un partout. Non,
oh, c'est pas grave, les âges.
C'est pas Carrie Bradshaw, écoute, on a le droit de dire que t'as 36 ans, c'est pas...
T'as du mal avec le fait de vieillir. Allez, on commence. Bim,
oh,
direct.
Là, là.
Allez, hop.
Bah, c'est pas très masculin. Non, je rigole.
C'est bien d'avoir des rides, tu sais, un peu comme Lino Ventura ou Jean Gabin.
Non, il y a un adage qui dit que vieillir, c'est un privilège. Voilà, c'était la minute philo.
Parce que quand on n'est pas privilégié, on meurt.
Bah oui, parce que sinon, oui, c'est la mort, la maladie, le machin, tout ça. Donc non, vieillir, c'est plutôt une... Je pense que c'est une bonne chose.
Tu dis ça de façon ironique ou...
Non, pas vraiment. Après,
est-ce que tu le sens sérieux ou pas ?
Oui.
Dans son nom, il est...
Il est sérieux, mais il esquive.
Oui, c'est ça.
Tu lui as posé une question un peu personnelle. Il a répondu avec un proverbe.
Je suis merde, repéré, extraction, extraction.
C'est ce genre d'invité.
Oui. On va creuser, on va te tabasser un petit peu, Thomas.
Non, vieillir, ça, c'est cool, ça va. Après, mal vieillir, ça doit être très nul. Moi, enfin, personnellement, je fais plus jeune que mon âge. Je suis en bonne santé. Ça va plutôt bien. Non,
ça veut dire quoi pour toi, mal vieillir ? Faire plus vieux que son âge ?
Bah, faire plus vieux que son âge, surtout avoir très rapidement des signes de vieillesse qui soient physiques ou de santé qui arrivent. Ça, je pense que ouais, ça c'est mal vieillir. Tu vois, tu te dis, ah putain, il a déjà ça à cet âge, waouh, voilà. Ou, tu vois, galérer sur ta condition physique quoi, qui se dégrade plus rapidement. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, même si on fait attention ou pas. Moi, ça va. J'ai plutôt de la chance. Donc, c'est cool.
Et puis, tu prends beaucoup de temps aussi pour entretenir, justement.
Oui, voilà. Après,
oui,
je joue aussi
pas,
sur cette carte-là.
C'est pas,
hein,
juste c'est pas du hasard non plus. Hein. Peut-être que tu as un métabolisme qui fait que même si tu ne faisais rien en termes de sport et tout, tu serais quand même relativement fit. Ça va. Mais en vrai, tu...
À 36 ans, je pense que c'est vraiment très, très dur de rester fit, même si tu es fit pour un mec. Et que tu manges sans faire trop gaffe.
Mais tu vois, par exemple, toi, Fab, t'as 40 ans, tu fais...
Ah, mais je suis pas fit, moi.
Non, t'es pas fit, mais je veux dire, t'es mince, quoi. Tu vois.
Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je suis mince. Je pense que j'ai un métabolisme à être mince aujourd'hui. Mais en fait, je fais gaffe moyennement, si tu veux. Je pense que si je faisais pas gaffe, je ferais 10, 15, 20 kilos de plus sans aucun problème. Et malgré tout, je suis un mec qui est de base mince. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a un moment où à un âge à 36 ans, c'est ce fameux âge, tu l'as peut-être connu aussi, où à 25-26 ans, ton métabolisme, il arrête d'ingurgiter de façon facile, les McDo et les grosses plâtrées de bouffe que tu te prends dans la tronche et qui dit en fait je vais désormais stocker du gras. Allez bye.
Et on tu sais fais, pas comment peut-être ça qu'on en aura besoin.
J'avais pas connu ça du tout et c'est je pense qu'il y a pas mal de mecs qui se font prendre à ce piège-là justement et alors que les meufs ont connu ça depuis qu'elles sont toutes petites, elles font gaffe, surtout qu'on leur dit, si tu veux, de faire attention, machin. Les mecs, à un moment donné, en tout cas, moi, c'est 26-27, hein, vraiment, c'est bim. Juste après ça, j'ai eu la grossesse plus la couvade. Double bim!
T'as pris combien de kilos?
La grossesse, j'ai pris 10 kilos en 3 mois, j'ai fait stop!
Propre!
Très, très vite. Real quick. 10 kilos en 3 mois, c'est beaucoup.
Oui.
T'as oublié. Tu lâches les vannes. Hop, voilà. Pardon, parlez de moi. Non, mais on est d'accord, t'as connu ce moment-là, toi aussi, à 26-27 ans ou...
Non, parce que moi, j'ai toujours fait attention. Ah. J'ai pas... Enfin, je pense que j'ai une bonne génétique sur le côté vieillissement, etc. Après, sur le côté fit, j'ai toujours fait attention. Mais par contre, ouais, je l'ai beaucoup vu autour de moi. Hein, mais garçon ou fille, c'est quand tu passes le 25-30, ouais, t'as raison, il se passe un truc, la dégradation, le voyage vers la mort, tout ça.
On va parler de ton rapport rapide au corps, parce que c'est non seulement passionnant, mais en plus, je sais que c'est un sujet qui est important pour toi. Puisque donc, on dit, tu fais du sport, tu fais attention, mais en vrai, t'es zinzin. Et je t'aime beaucoup, mais t'as une façon de gérer ton corps où c'est vraiment une machine minutieusement millimétrée et il n'y a pas d'écart possible, quoi.
Bah, si, il y a des jours de fête où tu mets une cuillère de miel dans ton thé, quoi.
C'est quoi ta... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine sportive?
Je fais du sport quasiment tous les jours, en moyenne on va dire c'est 6 jours sur 7, c'est de la salle de sport, c'est pour le côté un peu efficient, je trouve, voilà, c'est, t'as tant de temps, c'est rapide, c'est efficace, et ouais, donc...
Tu fais quoi au sport? Tu fais du cardio, tu pousses?
Un peu de cardio et je pousse, j'ai des trainings assez construits on va dire, donc pour, voilà, enfin c'est...
T'as un coach?
Non.
Ok.
Non. Après, j'ai pas mal discuté avec des coachs. Après, tu peux pas mal te documenter sur l'internet.
Ça marche bien.
Bon, il faut vraiment faire le tri au milieu, mais c'est voilà, ça peut être une bonne source d'infos pour plein de choses, notamment pour ça. Et ouais, donc non, par contre, c'est assez construit, dans le genre tel jour, tel truc, t'as un cycle, voilà, c'est.
Et tu fais ça depuis toujours ou?
Non, ça fait 6 ans, je crois. Et très sérieusement, un peu moins, quoi, tu vois.
Enfin, t'as passé 30 ans.
Oui. Je me disais, ah, le mec a eu 30 ans, il a flippé. Tu l'as vu la mort approcher.
Non, avant, je faisais pas du tout de sport. J'ai toujours fait gaffe à ce que je mangeais, toujours attention à la nutrition, parce que quand j'étais petit, j'étais un peu rond. Et donc, du coup, tu gardes tes cellules adipeuses qui disent stocker. Donc, du coup, tu es obligé de faire attention un peu. Mais.
J'étais chubby quand j'étais petite, je fais toujours pas attention. Tu peux juste accepter d'avoir un gros cul aussi.
Ouais.
C'est une option.
Mais non, les petits abdos, tout ça, tranquille, ça fait. Voilà, non, bien après.
Est-ce qu'on est sur un six-pack?
Ça dépend des périodes, c'est ça?
Ouais, bah oui, évidemment, quoi. Oui. C'est. Je sais pas, t'as déjà vu toi tu...
Oui, il y a quelques photos de concerts où t'es torse nu. Est-ce que tu fais aussi de la musique, de la batterie, ouais. En plus d'être photographe. Et moi je trouve qu'on est sur un six-pack, mais qu'est-ce que j'en sais, Thomas?
Je
n'y connais rien, je trouve qu'on dirait un six-pack, mais ça se trouve, les gens qui font du sport comme toi vont me dire
vont
faire
pas du tout.
C'est le mec est à 10%, c'est hyper perfectible, tu vois, mais toi t'es, encore une fois, t'es un peu zinzin sur plein de trucs que moi je ne connais pas.
C'est quoi ton pourcentage de graisse, tu sais?
Je sais pas.
Ah, tu te calcules pas comme
non.
À ce point-là.
Bon, en fait, ça se voit vite. Hein. C'est,
non, dire, t'as peux... vraiment des mecs qui.
Oui, tu sais, qui ont des balances. Quand tu fais de la compète et des choses comme ça, peut-être. Après,
quand tu veux suivre dans le temps ton.
Faire des courbes.
Ton évolution, non?
Ouais.
Non, mais donc t'es pas à ce point-là de zinzinerie, quoi.
Non, est-ce que tu pèses régulièrement?
Ouais.
Tous les jours?
Non.
Toutes les semaines?
Oui.
Très bien. Est-ce que tu peux nous dire combien tu pèses?
Je vais faire 80 kilos là.
Ok. Est-ce que c'est
pour combien de taille?
Oui.
Pour 1m92.
Voilà.
T'as baissé un peu d'une octave au moment de dire ça.
Il a dit salut, ouais. Je suis immense.
Alors soyons précis, c'était une carte déjà. Bon, pardon, blague de musicien, on va arrêter ça tout de suite.
Ce n'est pas.
C'est pas non plus.
C'est
pas
la solfège. Ouais, non, c'est.
Ah, une quinte?
Une carte, je dis.
Une carte? C'est quoi une carte?
C'est un écart de notes, mais c'est vraiment...
Ouais, il a pas baissé d'une octave, il a baissé d'une carte.
Ouais.
J'espère que vous l'avez si vous êtes musicien et que vous êtes en train de vous plier en deux. On vous avez mis pause, genre putain, il est tellement marrant ce Brian, parce que moi je ne l'ai pas.
Tous les jours à 17h au théâtre de la Tortue qui pêche.
Donc 80 kilos pour 1m92, ouais. Est-ce que c'est un poids avec lequel t'es bien?
Ouais, là faut perdre un peu de gras pour respecter un peu plus le six-pack. Mais sinon, mais on est bien. Oui, oui, là on est pas mal. Hein. C'est cool quoi. Ça va. C'est plutôt.
Ça te donne un IMC de quoi ça? 20? 21?
Je sais pas. Je me pose pas trop ce genre de questions.
Ok. Oui, d'accord. Donc t'es vraiment dans un. T'es dans un suivi de poids, mais en fait t'es pas trop dans le. Dans l'analyse, on va dire.
Bah, en fait, l'œil vaut tous les chiffres, à mon sens, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui dit « Ah ouais, j'ai tel rapport, tel chiffre, tel machin, etc. » Tu regardes, tu peux trouver ça... tu fais « Bah non, c'est pas esthétique. » Enfin, comme le rapport poids-taille, ce truc-là est complètement faussé dans le sens... Enfin, ça dépend du métabolisme de chacun, quoi. C'est-à-dire que moi, sur le papier, il faudrait que je sois... que je prenne encore du poids, alors que... Bah non, tu vois, ce qui est le plus esthétique, c'est d'avoir un poil moins. Sur les codes de l'esthétisme posés... ça c'est encore autre chose, mais enfin ouais non, ça c'est propre à chacun. Et puis l'œil quoi, enfin ça se voit, tu le bien-être intérieur non je sais pas, tu vois,
je pense que chacun a sa propre définition du bien-être intérieur, et que par exemple toi et moi vivons des rythmes de vie très différents, car je n'ai pas fait de sport depuis mon bac, je pense. De façon volontaire.
Le PS.
depuis que j'ai arrêté d'être obligé d'en faire, hein, ouais, tout ouais. Simplement.
Depuis la contrainte.
J'ai un rapport à la bouffe qui est un rapport plutôt plaisir, et je ne compte pas. Je ne sais même pas combien je pèse, pour te dire, tu vois. Genre, je sais combien je mesure parce que ça bouge pas. Je sais pas combien je pèse, je cuisine avec du beurre et de l'huile, et tout le monde est très content, surtout moi. Et je suis... ce que j'appellerais « mouip », ce qui veut dire « chubby », mais pas trop. Donc j'ai un peu du gras.
Mouip.
Et pour mouip. Moi, c'est ma vision « mouip ». Tu sais, parce que ça
c'est
fait
beau.
Genre « mouip, mouip ».
Ah, quand tu
pinces
les bourrelets.
Un petit bourrelet, ça fait « mouip, mouip ». Et moi, c'est ma vision du bien-être. Tu vois, tu parles de bien-être intérieur. Pour moi, c'est ça, le bien-être. Et je suis passée par des périodes de régime, par exemple, ou des choses comme ça, où j'étais beaucoup moins dans le bien-être, parce qu'en fait, je faisais des trucs... pour des mauvaises raisons, qui étaient juste j'ai envie de correspondre à ces fameux standards d'esthétisme, alors qu'en vrai déjà je pense que j'ai pas trop le métabolisme pour, je suis pas taillée pour, je ferais jamais 1m72 et 48 kilos, enfin c'est pas un truc qui va arriver dans ma vie. Et puis ça me fait chier, et puis c'est pas un truc qui me rend heureuse de juste être bonne, tu vois, et de faire du 36 ou 34. 34, qui fait du 34 dans ma vie, je ne sais pas, des adultes probablement, des femmes adultes. Du coup, comment ça se fait que
des
toi...
Des petites, si, bien sûr, tu peux faire du 34, tu peux être une femme adulte et faire du 34 et être une petite.
Tu vois, ça me semble juste ouf
petite
parce
que,
ouais, au-delà de la taille de jambes, moi j'ai eu des hanches assez larges assez tôt dans ma puberté, et j'ai une photo de moi où il y a mes hanches qui poussent et je suis en bikini, on dirait vraiment qu'elles vont traverser ma peau, et du coup, j'ai pas fait de 34 depuis que j'ai 12 ans, un truc comme ça, donc pour moi c'est fou de me dire, il y a des meufs assez fines pour faire du 34, c'est juste... mais tout comme... je pense que quand t'as toujours été fine, c'est fou de te dire qu'il y a des meufs qui font du 52, tu vois, t'es là, mais comment tu deviens assez grand pour rentrer, pour avoir besoin de 52? Donc c'est juste un rapport à mon corps qui est différent, on va dire. Qu'est-ce qui fait que toi, Thomas, t'as défini ta vision du bien-être comme correspondre à des standards esthétiques via beaucoup de boulot, finalement, puisque au-delà du sport dont on a parlé, il y a t'as un rapport à la nutrition qui est très mathématique, très... on fait attention à ce qu'on mange.
Ouais, tout mais ça qui bien, ça. Reste plaisant aussi, c'est-à-dire que c'est pas du tout. Enfin, si on partage un repas, ça serait très bon, quoi.
Ah oui.
Oui, oui,
ah
voilà.
Oui, oui.
Ça reste quand même des contraintes. Enfin, est-ce que c'est des contraintes aujourd'hui pour toi?
Non, c'est des choix. En fait, je peux pas manger ça. C'est juste à la place de tel truc, tu manges un autre truc. Enfin, il y a toujours quelque chose en face. C'est pas du tout le côté chiant, genre blanc de poulet, riz blanc et jour de fête. Un trait d'huile d'olive, quoi. Non, du tout. C'est très, très loin de ça, quoi.
T'as fait une blague tout à l'heure sur le fait que les jours de fête, tu mettais un peu de miel dans ton thé, si tu veux. Donc
ouais, moi,
ça, c'était pas une blague.
C'est mon niveau de fête, quoi. Alors, non, je prône le côté de réduire, voire éliminer le sucre. Sugarland, super film.
Ah oui.
Plus avec une belle voix, doublée en français. Kian, si tu nous écoutes.
C'est Kian que j'en dis qui.
Donc, ouais, non, super film là-dessus. Voilà. Enfin, on va pas parler du sucre aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plein d'autres sources d'informations que vous pouvez aller voir, et notamment ce film. Donc, je vous y invite.
Il n'est plus en salle, hélas. Hein, il est resté 2 semaines, je pense, dramatiquement, mais il va sortir bientôt en DVD.
Oui, vivement le DVD.
Donc voilà. Non, après, pourquoi non, enfin, le côté esthétique, après, c'est un jeu, c'est par rapport au regard social ou autre. C'est, après, ça va rejoindre des manières de s'habiller ou voilà, tu joues avec ces choses-là, quoi. Donc, c'est. Ouais, après, il y a un truc de se sentir bien par rapport à soi. Par rapport, c'est toujours évidemment par rapport à la société. Donc là, ça va être par rapport, si on parle de masculinité, par rapport aux autres hommes, mais aussi évidemment par rapport aux autres femmes. Et ouais, si on peut faire un peu ce parallèle au fringue, quoi. Tu vois, tu te sens bien sapé, etc. Tu te sens à l'aise, tu sens que ça peut plaire. Et du coup, bah, après, le truc physique, au moment où tu enlèves tes sapes, pour quelque raison que ce soit, il y a la plage aussi, il y a ces choses-là. Voilà, il n'y a pas que des raisons olé, olé.
J'aime bien ce aussi. Il y a aussi la plage.
Voilà, ou enfin, toutes les raisons où à un moment tu te trouves torse nu, que ce soit en concert, par exemple, tiens aussi, quoi. Voilà. Et où tu vois qu'en face, dans ses yeux, c'était allumé une lumière de vice. Donc ça, c'est cool. Tu vois, voilà, c'est. Moi, ça fait partie de code sur. Je trouve que c'est drôle de jouer avec ça. Et après, c'est pas une pratique. C'est une pratique qui. En fait, ça entretient ta forme physique, ta durée de vie, tu te sens bien. Voilà, ça a plein de trucs positifs aussi, quoi. C'est pas.
Ça te vient d'où ? C'est quoi ton moteur, en fait, qui te fait que tu t'as switché un jour vers ce truc de je vais prendre soin de mon corps aussi loin que tu t'en souviennes ?
Bon, ça a dû attaquer au collège, si on fait un pareil avec les fringues, quoi, tu vois. Tu sens qu'il y a des jeux de. Ouais, je vois ça un peu comme un jeu, quoi, où on s'auto-définit vraiment par comment on s'habille, qu'est-ce qu'on écoute. Bon, ben ouais, dès le collège, je pense qu'on a tous. On s'aperçoit assez vite de ça, quoi. Donc, tu te positionnes beaucoup par rapport au regard d'autrui. Trop, évidemment, à ce moment-là. Au fur et à mesure des années, tu t'en détaches. De faire attention au corps. Ouais, vu que j'avais ce truc quand j'étais petit, j'étais un peu rond, tu te dis, bon, bah tiens, bro, ça c'est un peu nul.
Tu t'es fait bolos au collège parce que t'étais un peu rond?
Non, plutôt. Non, avant. C'est quoi, avant le primaire? Oui.
Oui, primaire.
Oui. Mais c'est loin.
C'est peut-être le moment de dire que Thomas n'a pas d'enfant.
Non. Très loin de ça.
On l'avait capté.
Non.
S'appelle déjà le truc l'école. Ah oui, les gars.
Ah oui. Non, le primaire, oui. Bon, oui, quand t'es rond au primaire, voilà, c'est. Machin. Bon, bah, du coup. Toi, t'as du mal à courir pour rattraper. Par contre, quand tu le chopes, tu cognes et il a mal.
Tu tapais les gosses.
La violence.
La violence résout tout. Regarde les États-Unis. Attention, ceci est une blague.
Le point ironie.
En fait, j'étais en train de chercher le moteur qui faisait que t'étais rentré dans ce jeu-là, comme tu dis.
Ouais. Bah après, le
fait. Parce que tu dis que c'est un jeu, je suis d'accord avec toi, mais c'est une façon d'y jouer. C'est-à-dire que t'as choisi, toi, ces cartes-là. Il y a plein d'autres façons d'y jouer. C'est-à-dire que t'as les nerds après. Mimi, tu en sais quelque chose. Hein. Je pense que t'avais plutôt joué cette carte-là de la spécialité, de la différence.
Je ne traînais pas
culturelle.
Et je ne sortais pas avec les garçons qui allaient à la salle ou qui faisaient du football. Non, pas du tout. On se parlait sur MSN et on jouait à Metal Gear.
Là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de cultiver le corps et l'esprit. C'est-à-dire que. Voilà, à l'inverse, je viens plutôt je suis artiste depuis longtemps. Avant, quand un gamin, je voulais faire du dessin. Très vite, j'ai fait de la musique. J'en ai fait mon métier. De là, j'ai viré vidéaste et photographe. Donc, je fais encore ces trois activités aujourd'hui. Donc, je pense que c'est plutôt un milieu qu'on qualifie de culture où tu cultives un peu justement cet esprit, etc. Je pense que le fait de cultiver les deux est tout à fait louable et trop peu, c'est rare en fait qu'on voit ce développement. C'est-à-dire que évidemment tu vas dans une salle de sport, une fois j'ai sorti un bouquin, enfin pendant un temps sur les temps de repos je lisais des bouquins dans la salle de sport, il y a un mec qui arrivait choqué, mais genre waouh, j'ai jamais vu quelqu'un lire un livre dans la salle, waouh, c'est genre c'était incroyable quoi. Le fait que j'écoute des podcasts France Culture dans une salle aussi, c'est si on me demande ce que j'écoute comme musique pour les rares contacts qu'il y a, enfin c'est bon, voilà, bref, ça pour dire que tu sens que c'est.
J'écoute des podcasts France Culture. Là.
Non, mais c'est, voilà, c'est pour faire vraiment un. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Et à l'inverse, sur le milieu culture, à part évidemment comédiens, danseurs, où leur corps est aussi leur métier, mais je sais que quand je dis ouais, moi je fais de la salle tous les jours, c'est vraiment plus des regards surpris, quoi. C'est ah ouais, Ah bon, c'est...
Quoi ça te sert?
Oui, et puis en plus, genre, on catalogue tout de suite la salle, c'est un truc de bouffe, quoi. Donc, c'est... Et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Autant qu'à la salle, quand tu te dis, oh, il y a un truc au théâtre ce soir, machin, le mec te fait en face, ouais, c'est ça. Et donc voilà, moi, je suis pour...
L'éclectisme.
Ouais, ouais, et puis après, c'est aussi une sorte de paradoxe. Donc tu vois, tu vas faire des choses très superficielles qui vont être cultiver ton corps, être bien sapé, faire gaffe à tout plein de trucs d'apparence physique qui sont normalement codifiés comme étant faits par des personnes qui réfléchissent peu. Je dis codifié, c'est parce que c'est une image que tout le monde a, malheureusement. Et en fait, tu te dis mon cerveau fonctionne, je suis plus dans un domaine artistique. Enfin voilà, j'aime bien cette ambivalence. C'est le bon mot. J'avais envie de le placer.
On a le point ambivalence, très bien.
Ce qui m'intéresse, une des choses qui m'intéresse chez toi, c'est que tu es très exigeant envers toi-même.
Oui.
Et tu es très exigeant envers les autres.
Oui.
Parce que j'ai envie de dire, entre guillemets, tu as le droit, puisque tu n'appliques pas aux autres une exigence dont toi tu te fous. C'est, moi, je fais le taf de cultiver mon corps et mon esprit et d'avoir un certain standing de vie, on va dire. Et c'est quelque chose que j'espère retrouver chez les gens que je fréquente. Et du coup, je me demandais dans quel milieu tu as grandi ? Comment sont tes parents ? Est-ce que tu as des frères et sœurs et tout ? Parce que je me demande d'où ça te vient, cette envie de. Cette exigence que tu appliques à ta vie.
Alors forcément, oui, les parents, l'enfance, tout ça, il y a beaucoup de liens. Alors après, le pourquoi, comment, je sais pas vraiment. Donc moi j'ai grandi dans le sud. Mes parents vivaient ensemble, techniquement. Jamais vu le côté uni d'une famille ou autre. Je sais pas ce que c'est, quoi.
C'était séparé ou c'est juste que ça se passait pas bien?
Ça se passait pas vraiment bien. J'ai jamais vu de. Enfin, une fois, j'ai vu un contact physique, j'étais surpris, quoi. Donc, j'ai fait waouh! Et donc, oui, bon, ça a dû avoir une part influente. Après, j'ai 3 demi-frères du côté de mon père qui sont beaucoup plus âgés. J'ai vécu quelques années avec l'un d'entre eux. Et voilà à peu près pour le cadre familial. Hein, c'est pas ce que je peux te dire de plus là-dessus.
En tout cas, t'as pas de sœur?
Non.
Et c'est quoi tes rapports avec ton père? Quand t'étais enfant et maintenant que t'es...
Très conflictuel. Après, j'ai plus mon père depuis que j'ai 20 ans. 18 même. C'était relativement conflictuel. On n'a jamais... malheureusement, vers la fin, il y a un léger rapprochement, mais mauvais timing. Donc, après, le côté très exigeant vient plus de ma mère, je pense, qui est très bosseuse. J'imagine que ça vient de là. Après, j'ai vu mon padré plutôt peu bosseur. Donc, est-ce que c'est par réaction par rapport à ça? Je sais pas, quoi. Mais en tout cas, quand on fait les choses, on les fait énormément ou pas du tout. Il n'y a pas de nuance. Voilà, c'est tout ou rien.
Sur une certaine intensité.
Ah, mais oui, il faut faire beaucoup quelque chose, quoi. C'est que ça soit dans tous les domaines, artistiques ou personnels, tout. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, c'est un avantage pour plein de trucs. Mais ça peut, c'est pas parfait, quoi, je pense. Hein. C'est le tout, beaucoup trop.
Ça te dessert dans quel domaine, tu dirais? Où t'as des anecdotes?
Ah.
Qui te feraient dire, un poil trop? Zut.
En couple? dans l'intimité, je pense qu'on est dur à vivre un peu dans ce côté hyper too much, quoi. Donc,
avant que tu dises on est dur à vivre, c'est dur. Ma communauté et moi,
les gens intenses,
les gens zinzins comme moi,
oui, ouais, je pense, oui. Mais après, ça présente évidemment des avantages dans le taf, dans tout, dans tout ce qui est artistique. Voilà, tu fais quelque chose, tu y vas, quoi. Donc,
ça te permet de progresser, c'est cette idée de te dire, en fait, quand tu fais les choses vraiment fort et à fond, ça te permet de pouvoir bosser ton art.
Ouais, d'avoir d'exigences là-dessus. Enfin, après, comme dans tous les domaines, c'est si tu veux aller loin, il faut que, si personne ne te pousse aux fesses, il faut au moins que ce soit toi qui le fasse. Moi, dans le développement, là, l'art est un moyen vecteur d'expression qui est absolument génial, quoi. Moi, ça me correspond beaucoup et je pense, même tout le monde devrait pratiquer une discipline artistique. Hein. Ça serait je prône ça à mort.
Mais t'as une approche un peu de performance aussi autour de l'art. C'est-à-dire que, quand je dis performance, je parle de jusqu'au boutiste de le faire à fond, comme tu dis.
Ah bah oui. Oui, il faut. On va pas faire les choses à moitié, quoi.
Ah bah, je suis d'accord avec toi, tu sais, mais. Je parlais. Bonjour Mimi, ça va?
Je fais tout à moitié.
Mimi qui est une grande laxie.
Parfois aux deux tiers.
Qui est une dilettante, tu sais, Mimi.
Je vois.
Tu vois?
Je fais un peu de tout.
Une personne extrêmement talentueuse, mais beaucoup de dilettantisme. Ce qui, moi, à titre personnel, pour la côtoyer au quotidien, parfois me fait la regarder avec. comment dire?
Je pense qu'il y a un côté, genre, si seulement tu t'y mettais,
ouais, c'est ça.
À 100%.
C'est l'idée de gâchis. Ouais. De... Ah putain, si tu bossais un peu.
Moi, je suis ravie de pas me dédier pleinement à un truc parce que, en fait, je pense que j'aurais.
Tellement
j'aurais...
de temps perdu, par exemple, sur Mario Odyssey.
Ah, c'est pas du temps perdu. Et toi, tu joues à Hearthstone, donc tu te calmes.
J'ai arrêté, justement.
Tu jouais il y a deux jours, donc t'as pas arrêté il y a longtemps.
Oh my god!
Mais
Bastille.
En fait, je pense que c'est un peu le côté. Tu sais, faire un choix, c'est toujours ne pas faire tous les autres choix. Et si je me dédiais pleinement, comme toi tu le fais, à quelques activités, j'aurais l'impression de... En fait, t'as pas beaucoup de temps libre, tu vois, dans ta vie, toi. T'as la photo, la musique, le sport, la nutrition. Et en fait, ça remplit pas mal tes journées.
Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est des loisirs pour toi. De faire de la photo... C'est du travail, mais
non. ouais c'est lié, hein. Il y a pas de, enfin, je,
tu vois,
enfin,
pas
c'est
comme
un tout, quoi.
Tu le vois pas comme un travail.
Bah, je le vois comme un fait, en fait. C'est une évidence de, enfin, je me vois pas vraiment faire autre chose, en fait. J'ai c'est un truc que t'as tous les jours. C'est pas genre je vais bosser. En plus, il y a pas là dessus t'as pas de
d'horaire,
ouais, voilà. Et puis tu t'arrêtes un peu jamais, c'est à dire qu'à un moment tu ouvres Instagram, pas pour le fait de pour documenter, en fait, pour aller chercher des choses. C'est pour la photo, ça va être ça. Après, de la musique, si tu vas à un concert, à la fois c'est pour le fun ou c'est que de la musique ou juste pour le plaisir d'en écouter, il y a un moment tu l'analyses, tu vas chercher des choses, tu nourris sans arrêt. C'est ouais, ça c'est je non, ça c'est oui. Ça répond à ta question?
Oui, je pense.
Ok, d'accord. Je suis en train de me perdre dans mes pensées.
Oui, pardon Mimi, je t'ai coupé.
Oui, et du coup, moi étant une dilettante professionnelle, ça me permet de faire plein de choses, mais pas trop fort. Toi, tu fais... Enfin, j'ai pas envie de dire peu de choses, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est juste que t'as des spécialités que tu fais à fond. Est-ce que t'as parfois... Enfin, par exemple, comme tu disais que le fait d'être hyper exigeant et hyper... on le fait à 100%, voire à 120%, ou on le fait pas, peut te poser des problèmes en couple. Est-ce que, par exemple, c'est compliqué pour toi de trouver, de faire de la place dans ta vie pour une meuf?
Non. Bah non, ça s'est produit pas mal de fois. Après, oui, si la personne a besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'attention, oui, c'est problématique. Après, c'est aussi des trucs très factuels, c'est que si la personne travaille du lundi au vendredi, de 9h à 18h... Enfin, spécialement quand j'étais musicien, moi je bossais tous les week-ends, ben oui, ça crée des problèmes de timing ou autre. Après, si t'es avec quelqu'un qui comprend ça, et voilà, non, moi ça... Non, je trouve ça chouette, quoi. Ouais, partager quelque chose avec quelqu'un. Bon, après, ouais, le... Oui, plus l'hyper-exigence, plus ou moins consciemment, alors soit que tu vas implicitement... Explicitement ? Explicitement... formulé en disant tiens, on va faire ci, fais ça plus, fais ça machin. Bon, ça tu le doses un peu, mais ouais, je pense que c'est dur à vivre, mais aussi...
Oui, parce que t'as tendance à pousser tes compagnes, c'est ça, dans leur pratique, c'est ce que tu veux dire?
Moi, ouais, enfin, dire tiens, on va faire du sport ensemble, et on va faire ci, on va faire ça, donc après, viens, on mange bien, tout ça, viens, on fait ci, machin, donc bon, c'est, parfois c'est, ouais, c'est cool, et puis au bout d'un moment, en fait... Le fait que la personne voit que toi tu fais ça beaucoup à fond, ou que même dans ton taf tu bosses à mort, enfin, je sais qu'il y a plusieurs fois le retour de sentir pas à la hauteur, enfin, on a déjà dit ça, quoi, mais alors que pas du tout, quoi. Enfin, je sais qu'il y a eu un peu des conflits sur ça, sur le se dire ah ouais, moi c'est pas assez bien, machin et tout, alors que toi tu dis ben si, et que donc là ça vient toucher le regard qu'on a sur soi-même, qu'il soit sur le plan physique pur ou sur le plan personnel ou autre, et qui est toujours très faussé, quoi. D'ailleurs, chose sur laquelle je réfléchis beaucoup en photo, quoi, le regard sur soi. Donc, ouais, ça, il y a eu des conflits sur ça. Des mésententes plus que des conflits, en fait.
Et donc, tu parlais de l'aspect explicite on va faire du sport, on va manger bien et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a des exigences implicites que tu mets aussi en place dans ta vie sentimentale? Ou est-ce que tout est dit franchement?
Je sais pas trop. Ça, j'aurais du mal à répondre bien à cette question, quoi.
D'accord.
Non, désolé, mais c'est vraiment.
C'est pas grave. Ouais. J'ai une autre question.
D'accord.
Merci, c'est cool. Plein de questions. Bonne idée.
Donc, pour mettre un peu de contexte, ça fait un petit moment.
Arrête
que
de t'excuser aussi, putain.
Ben non, mais
tout le temps.
Ben oui, tu vois, tu te dis, bah tiens, je vais essayer de dire des trucs intéressants. D'un coup, on te pose une question, tu fais, ah ben,
Ben non, mais tu peux avoir très bien rien avoir à dire sur ce sujet-là, c'est pas grave.
Okay. Tu vois, par exemple, peut-être que cette question était con, mais je me suis pas excusée. Moi, j'ai pas dit pardon. C'est juste, j'ai tenté un truc, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Tu n'as pas à t'excuser.
Prends des notes sur la confiance en soi de Mimi.
Petit battage de steak, clairement.
Bien vu.
Pour mettre un petit peu de contexte pour les auditeurs et auditrices, ça fait un petit moment que je t'ai parlé de The Boys Club et que je t'ai proposé d'y participer. Et à la base, t'étais pas forcément très chaud pour parler de toi, donc ça, c'est pour ça que tu es là maintenant et pas dans l'épisode 3 par exemple. Mais par contre, tu m'as dit que t'aurais des choses à raconter sur, justement, tu parlais du regard que les gens ont sur eux en photo et sur la façon dont les hommes se conduisent entre guillemets quand tu les prends en photo.
Les hommes et les femmes, après, il n'y a pas quelque chose de genré trop, j'ai l'impression, sur ce rapport-là, quoi. Non, après, ouais, enfin, on est à peu près tous conscients que le regard qu'on a sur soi est extrêmement faussé, n'est jamais objectif, quoi. Et enfin, je m'aperçois beaucoup de ça. On est très critique envers soi-même, ça je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, mais que plein de gens doivent avoir. Et que ça soit ben, sur des détails physiques, comme sur des trucs, des traits de personnalité, ou enfin genre on dit « ah, pas bien, pas bien ». Et avec la photo, je m'aperçois de plus en plus, au fur et à mesure des années, que ben, tout le monde a les mêmes perceptions. On me dit, à chaque fois, j'ai les gens qui en face me disent « ah, j'aime pas trop être pris en photo, en fait ». Je fais « ah ouais, tout le monde me dit ça ». Et quand je leur dis ça, ils me disent « non, mais moi spécialement ». Voilà, c'est... Mais oui, oui, on a tous ce rapport-là, et quand tu, si on peut parler que par exemple du côté apparence physique, donc même si en photo je travaille beaucoup sur autre chose, en fait sur plus ce qu'il y a dedans, mais ça c'est autre chose. Quelqu'un d'extrêmement esthétique, sans parler des goûts, des couleurs, mais en tout cas qui soit vraiment personne que on dira, elle est très belle personne. Exactement les mêmes considérations. On dit, ah, mais j'aime pas ci chez moi, j'aime pas ça, ça va pas, etc. En face, tu fais quoi? Ok, finalement, une fois, deux fois, tu t'aperçois que c'est assez régulier et que, en fait, toute personne douée de réflexion n'a pas un regard objectif sur soi et n'a aucun. Et finalement, plein de complexes, de choses, d'exigences, de dire, ah, non, mais ça c'est pas bien, ça c'est pas assez bien, ça c'est trop comme ci ou autre. Et ça, ça m'a pas mal rassuré aussi parce qu'il y a. Dans le passé, j'avais exactement les mêmes considérations. De dire ah, mais ça va pas, c'est pas si bien, c'est machin. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est tout l'inverse, très loin de là. Mais en tout cas, tu te sers de l'expérience partagée avec toutes ces personnes pour s'apercevoir qu'en fait c'est quelque chose de très humain. Alors bien ou pas bien, je sais pas, mais que c'est intéressant de travailler là-dessus, de les rassurer, enfin, ou même de leur faire, pas les rassurer, mais leur faire prendre conscience que, ouais, on fait tous ça, on a trop cette hyper exigence envers soi, on voit tout plein de détails et on se dit, ah, mais même en photo, je suis pas beau, je suis machin, etc. Et combien de fois ça arrive que la personne sur la photo se dise, ah non, mais non, ça va pas, là, regarde, c'est pas beau, machin, et que tout le monde autour, très objectivement, dit, non, mais t'es très bien là-dessus. Et c'est d'arriver à amener ce regard, ce mode de pensée, de couper ce lien qu'on a avec le regard sur soi-même. J'ai beaucoup bossé là-dessus, quoi. Et c'est assez intéressant, quoi. Et quand, d'ailleurs, pendant une séance photo, quand tu arrives à désamorcer ça, il se passe quelque chose de différent et la personne devient plus photogénique, entre guillemets. Le côté photogénique, c'est pour moi, c'est plus qu'est-ce qu'il y a dans ta tête quand tu es devant un objectif. Et ça, il y a une énorme influence de ça. Quand tu arrives à désamorcer ces choses-là, la personne, sur les photos, rend beaucoup mieux, quoi. Et quelqu'un qui rend pas bien en photo, c'est pas physique, c'est vraiment la tête. La photogénie, pour moi, c'est être comment dire, c'est l'adéquation entre à quoi tu ressembles et à quoi tu ressembles en photo. Enfin, entre le en vrai et en photo. Et si c'est équivalent, c'est, ou voire mieux en photo, ça veut dire que tu es à l'aise avec ça, que bah, du coup ça fonctionne bien, que tu n'as pas, pas tous ces blocages, tu n'as pas ce visage qui se crisme ou ce regard de peur ou d'inquiétude quand tu as un objectif qui est devant toi, qui est braqué sur toi. Et ouais, ce truc est assez ouf parce que c'est enfin, on sous-estime vraiment le pouvoir du mental à ce moment-là, quoi.
Et tu fais comment alors pour inciter les gens à se, comment tu dis, se décrit, non, quel terme, t'as utilisé un terme,
désamorcer.
Désamorcer, oui.
Alors voilà, un peu vulgairement on va dire, mais
n'hésite pas à être vulgaire.
Non, mais c'est vraiment pour résumer, enfin sur un trait d'humour, je dis ben vraiment le secret c'est battez-vous en les couilles. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment ça. C'est plus tu t'en fiches, mieux ça marche, quoi. Moins tu réfléchis, etc. Parce que, pour revenir à ce que je disais, c'est que toute personne douée de réflexion ne peut pas avoir un regard objectif sur soi-même. Donc, arrête ces réflexions, en fait. Arrête ces considérations. Arrête de penser à ça, de dire « Ah non, mais je suis comme ci, comme ça, si je me mets là. » Enfin, plus tu relâcheras, mieux c'est. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que quand tu... Sur un shooting, parfois... Enfin, au début, c'est ça, bon... C'est pas là que t'as les meilleures choses, et parfois c'est un peu avec la fatigue vers la fin que t'arrives à choper des choses qui sont plus dans la personne, qui sont plus vraies, ou sinon d'autres facettes, en tout cas plus vraies dans le sens de aussi qu'elle peut vouloir nous cacher. Voilà, c'est et ça, ce boulot, c'est la meilleure part de la photo, quoi. C'est,
t'as fait pareil, tu sais, au début de Boys Club.
De quoi, j'ai pas compris.
T'as fait pareil, t'as mis du temps aussi à te désamorcer.
Ouais, je voulais pas du tout.
T'as démarré effectivement par la première question, par répondre à un proverbe.
Par un proverbe. C'est vraiment la chose la moins personnelle du monde. Est-ce que tu remarques une différence de.
C'est marrant ou pas?
Ouais,
c'est vrai. Mais t'es pas filmé, effectivement. Non. Mais c'est une mise à nu.
Bah oui, quand même, il y a un vrai
ce
côté
podcast.
De.
Et quoi
de...
Ce podcast, c'est une mise à nu. De venir parler.
Ouais, moi j'ai pas trop de problèmes avec ça, quoi. Après, c'est là où j'ai visité, c'est la considération de se dire, est-ce que ça intéresse quelqu'un, en fait, au-delà de l'intéresser, est-ce que ça peut servir à quelqu'un? Moi, c'est plus ça qui me motive, outre l'amitié que je vous porte, voilà.
Mais ça intéresse, mais... c'est Mimi, en fait, tu vois, qui m'a dit, en fait, O'Brien, ça serait trop bien de l'avoir, donc je pense que ça, si ça intéresse Mimi, ça intéresse.
Ouais, c'est après, si ça apporte quelque chose, voilà, vraiment sur le... Enfin, si partager son expérience rend la... une partie de la vie quelqu'un mieux, bah ok, là c'est cool,
je pense.
Ça c'est cool. Sinon, si c'est juste pour le plaisir de venir raconter des trucs sur soi, moi ça me plaît pas.
Oui, je comprends.
Voilà.
Bah, si c'est tu... déjà intéressant, en vrai, un mec qui raconte des trucs sur soi, parmi lesquels des choses un petit peu pas force, enfin des moments un peu de vulnérabilité, comme quand tu tapais les autres gosses en primaire parce que t'étais un peu bouboule et qu'ils te bolossaient. C'est intéressant parce qu'en fait il y a beaucoup. Alors sociétalement, les mecs parlent beaucoup, plus que les femmes, mais ils parlent pas forcément beaucoup d'eux, ou en tout cas, ils parlent d'une. Comme tu parlais des gens qui ont un regard sur eux-mêmes qui n'est pas vrai, en fait, ils parlent de la version d'eux-mêmes qu'ils aimeraient présenter au monde, de leur façade, et ils parlent pas forcément de ce qu'ils sont à l'intérieur. Donc, dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant que tu racontes des trucs. C'est pour ça que. Mais t'es pas le premier invité à me dire. Je vois pas qui s'intéressera à ma vie, je suis là, en fait c'est intéressant ta vie. C'est un truc que j'ai appris en travaillant sur internet, c'est que la vie de tout le monde a des aspects intéressants. Et en fait j'étais curieuse aussi parce que je pense que t'es le mec que je connais qui bosse le plus sur son corps et sur le fait de faire correspondre son corps à des canons à la fois esthétiques et de santé qui sont assez rigides. Je connais des mecs qui vont à la salle, etc., mais ils sont pas aussi... dedicated aussi. Bah, comme tu disais, on le fait à 100%, quoi. On le fait à fond que toi. Et du coup, ça m'intéressait de parler de ça parce que j'arrivais pas à savoir d'où ça devenait et est-ce que c'était lié au fait que tu sois un homme ou est-ce que c'était juste un rapport au corps qui n'a pas de lien avec ton genre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, je suis pas sûre. Mais en fait, est-ce que tu veux un six-pack?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Parce que t'es un mec, ou est-ce que tu veux un six-pack? Parce que tu veux un six-pack. C'était une question que je me posais. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas.
C'est dur comme question. Alors, Thomas est parti dans un, une méditation.
De couper ce, pour couper ce temps de réflexion.
Un tran. Pas.
Je mettrai une petite.
Parfois, c'est une tran. C'est une forme de tran.
Non, parce que les un corps, enfin, quelqu'un de bien foutu, homme ou femme, c'est cool, quoi. Je trouve ça juste chouette, quoi. Je trouve ça bien. Après, au-delà de considérations physiques, il y a vraiment aussi le côté forme physique, quoi. Plus tu fais de sport, plus t'as de patates, plus t'as d'énergie, plus tu es productif, plus tu augmentes ton métabolisme, tu peux travailler plus, tu peux être plus efficient dans ton boulot, tu peux tu peux sur scène tenir un concert de 2 heures tranquille avec la même intensité parce que t'as la condition physique pour. Et pareil, souvent en photo, il y a des trucs qui sont un peu physiques. Enfin, c'est assez la photographie, quelque chose d'assez fatigant parce que, enfin, faut paradoxalement parfois une séance photo m'épuise plus qu'un concert parce que tu dois driver ou autre. Et donc, ouais, après, ça touche beaucoup plus au-delà du côté physique, je pense, qu'au côté forme physique. Ça, je trouve ça cool.
Mais est-ce que tu fais tout ça parce que t'as la sensation que c'est ce qu'on attend d'un mec dans la société? Je pense que c'était ça le sens de ta question, Mimi. parce qu'il a juste dit forme physique, c'est bien, mec ou femme. Non, est-ce que tu fais tout ça parce que t'as la sensation que c'est ça qu'on attend de toi parce que t'es un mec dans cette société-là, où t'as reçu des messages, tu vois, d'une façon ou d'une autre, au cours de ta vie, qui te font dire. En fait, si, ça peut être aussi un moteur, c'est-à-dire, je me suis fait bolos quoi, à la primaire, je vais être le mec le plus fit possible pour pouvoir leur remettre des balayettes sans avoir à galérer pour leur courir, courir après, quoi.
Non, après, il y a un jeu dans lequel on joue tous, enfin voilà, de ce truc de société, de. Ben. Ouais, donc, est-ce qu'on rejoint, c'est quoi être un mec, quoi, du coup, ça amène cette question, quoi, mais. Je sais pas, moi je suis assez grand, donc j'ai toujours eu, puis après le fait d'être un peu grand, musclé, tu es bien sapé, dominant, machin, ouais, c'est le cliché mec, quoi. Après, ouais, je pense pas vraiment faire ça par rapport à pouvoir jouer à ça, mais c'est une carte, quoi, tu vois, de jouer là-dessus, quoi, mais... Je ne sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. Ouais, je me suis un peu embrouillé dans ta réponse. Là,
non, mais c'est pas. En fait, y a beaucoup de mecs qui ont du mal à. Pour t'expliquer un petit peu, il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à répondre à ce genre de questions, alors que je pense qu'il y a moins de meufs qui ont du mal à répondre à cette question-là sur leur rapport à leur genre, justement, parce que je pense qu'on n'a pas l'habitude de se projeter, de se poser ce genre de questions. Enfin, on n'est pas éduqué à ça, alors que les meufs.
Les injonctions à la féminité sont quand même réfléchies et déconstruites depuis un moment par diverses penseuses et penseurs, alors que la masculinité moins. Et du coup, mais tout comme il y a des filles qui disent, il y a beaucoup de filles qui disent par exemple, je m'épile pour moi. Et en fait, je pense que c'est sincère quand elles le disent. Et en même temps, je pense que si on vivait pas dans une société où les femmes doivent s'épiler, vraiment aucune femme ne se lèverait le matin en disant je vais m'arracher les poils avec la cire chaude pour moi, parce qu'en fait juste on leur aura jamais mis l'idée dans la tête. Et après bon bah c'est alors pour le sujet de la féminité, toute femme finit par gérer comme elle peut les injonctions qu'elle veut. Et moi voilà, je suis pas androgyne, je suis une meuf qui respecte plein de codes féminins moi aussi, donc loin de moi l'idée de cracher sur les filles qui suivent les codes. Et en fait, les injonctions à la masculinité sont peu clarifiées. C'est un sujet qui commence à être abordé. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de mecs comme toi ne savent pas répondre à « Est-ce que je veux un six-pack parce qu'on m'a dit qu'un mec devait avoir un six-pack » ou « Est-ce que je veux un six-pack parce que... » Tu vois, genre, est-ce que dans un monde où le six-pack ne serait pas un critère de beauté, les gens
c'est
se
un tout, ouais, c'est
fait chier à avoir un six-pack.
Sans avoir grandi avec Stallone et Schwarzenegger, par exemple.
Ouais, c'est... Ouais, tu le fais pour toi et être à l'aise aussi de jouer avec ce... Ouais, c'est code, en fait. Moi, c'est vraiment ce truc de... Et après, tu te définis chacun ayant sa définition. Après, moi, ça fait partie du truc où je me dis que voilà, être bien gaulu, c'est partie du truc que je trouve bien, quoi. Et après,
parce que tu parles de forme physique, tu sais.
Ouais,
mais en fait, il y a plein de sportifs qui sont très en forme et qui sont pas pour autant, qui ont pas pour autant un six pack, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Bah après,
ça dépend de ce que tu fais comme.
Enfin voilà, si je voulais, enfin vraiment aller à fond là-dedans, j'aurais bouffé des hormones, des machins, des trucs. Ouais. Enfin voilà, mais non, c'est.
Tu restes quand même sans gluten, quoi.
Je mange du gluten.
Pardon.
C'était quoi, sans blé raffiné?
Je fais attention à l'index glycémique des aliments, qui est en fait.
Le sucre, quoi.
En gros, ouais, la vitesse d'absorption des glucides, c'est-à-dire plus quelque chose est raffiné, plus il est cuit, plus il s'absorbe rapidement, donc plus il dit à ton corps de sécréter de... Ah, j'ai perdu de la... Perte de mots dans ma tête. Insuline.
Oui, insuline.
De l'insuline, et donc il dit l'insuline qui dit à ton corps, je vais stocker du bon gras. Et donc voilà. C'était la parenthèse nutrition dans une vidéo un peu spéciale.
Écoutez, sachez qu'on va finir d'enregistrer ce podcast vers midi. J'ai proposé à Thomas de rester manger et en même temps, je suis là en mode je ne sais pas quoi te proposer d'aller acheter à manger car c'est très compliqué.
De l'air.
Oui, de l'air et de l'eau, c'est bien. Et du thé sans miel.
De l'eau chaude.
Voilà.
En parlant d'être bien gaulé, peut-on faire le point vite?
Vous parlez vite avec tous les invités?
Quasiment.
D'accord.
Alors on a un peu tout, on est à deux opposés du spectre, il y en a un ou deux avec qui on n'en a pas parlé, dont une parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas de bite.
Oui, forcément.
Mais quoique on a parlé du coup de rapport au pénis, parce que c'était une chercheuse, c'était pas juste la dame d'en bas qu'on a dit viens faire un boys club. Et récemment on a eu Aurélien Fernandez qui a été opéré du pénis, et du coup l'intégralité de l'épisode avec Aurélien Fernandez, on parle de bite du début à la fin. Okay. Généralement c'est un... point bit.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on parle d'autre chose.
Normalement, si t'écoutes cet épisode et que t'as un peu d'empathie, t'as eu mal à la table.
J'ai sauté des passages carrément.
T'as grimacé.
j'ai
grimacé.
Forte empathie. Donc, j'imagine beaucoup trop les choses.
C'est rage dedans.
J'adore cette épisode. Et c'est marrant parce que les meufs qui, alors les hommes qui m'en ont parlé ont eu cette réaction-là de vraiment genre ah c'était dur à écouter, ou j'ai pas pu finir, ou j'ai sauté des passages. Et les femmes m'ont dit, en fait, enfin, j'ai aucune meuf qui m'a dit j'ai sauté des passages, même s'il y a de l'empathie, c'est oh, c'est chaud et tout, mais en fait, il y a une vraie curiosité de comment ça marche un pénis, parce que je pense que même les meufs savent pas trop. Et toutes les meufs qui m'en ont parlé ont trouvé Aurélien très marrant et m'ont dit oh, je me suis tapé des barres devant le dernier Boys Club et tout. Et j'étais là, bah, c'est quand même bon.
De sa bite qui s'est cassée, quoi.
Mais je pense qu'elles ont aussi ri de tes réactions, femmes, parce que vraiment.
Oui, c'est.
C'était pas bien.
On est sur la douleur. Oui.
Non, on imagine beaucoup trop, quoi. Je peux faire une parenthèse hors antenne?
Oui.
Du coup, je me demande si le point bit, c'est vraiment un truc de la situation où je fais. Et ce qui a été. Ça me fait réfléchir d'ailleurs de l'écouter du podcast. Et je me dis, putain, mais ça, en fait, ça pourrait être un point intéressant.
Pourquoi il dit tout ça hors antenne?
Là, je prends ton micro,
enfin. Non, mais.
Mec!
Parce qu'on peut refaire un point. Pourquoi il fallait dire ça dans l'antenne? Oh merde.
Je montrais le son à fond, je m'en fous, je le garde.
Mais.
Alors, en fait, est-ce qu'on remet du contexte? Je pense qu'on l'entend pas bien.
Oui, ok. Donc, on va refaire. Donc, Thomas, tu nous as demandé un petit moment hors antenne. Donc, on a baissé les micros et on n'entend rien, ce qui est tragique parce qu'en fait, tu racontais des trucs hyper intéressants.
Bon, d'accord.
Et du coup, comme
vois,
des bons forceurs, on ne t'a pas laissé finir et on a dit reprends ton micro et
redis-le
dans le micro.
Minimement, on s'est regardé en disant mais pourquoi?
Alors, en fait, je disais que. Dans le gros doute que le fait de venir ici, enfin voilà, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais raconter, j'ai vraiment rien à dire, etc. Apparemment, tu m'as dit c'est normal. J'ai fait ok, très bien. Du coup, j'ai écouté pas mal d'épisodes et je suis amené au truc de me dire ben voilà, au rapport de la masculinité, je sais que personnellement parfois j'ai une image très mec, voilà, très mec dominant parce que je suis grand, parce que ce truc-là, parce que ma façon de faire et autres. Et qu'à l'inverse, selon certains contextes, il y a même des personnes qui, souvent le retour, on m'a pensé que j'étais carrément homo parce que j'allais avoir des trucs un peu plus efféminés, un peu plus.
Bah déjà, tu prends soin de toi, ce qui est un cliché de base.
Par exemple, mais après, même dans l'attitude, tu vois, d'avoir des trucs. Et ça m'a fait réfléchir à me dire, bah, quelle situation? Enfin, alors déjà, ça va être selon le contexte, les personnes, mais à l'inverse, dans mon travail de musicien, j'avais le côté, je suis batteur, donc je suis un gros bonhomme, donc je vous drive, c'est moi, etc. Et donc, je suis chef d'orchestre de ça, donc la batterie, les gros muscles, la transpiration, la batterie. Voilà. Après, je suis chanteur aussi dans un groupe de rock. je suis chanteur dans un groupe de rock, voilà, c'est gros bonhomme, c'est machin, etc. Et du coup, je vais avoir des trucs un peu plus masculins dans le cliché sociétal. Et après, à l'inverse, quand je travaille en tant que vidéaste ou en tant que photographe, c'est un sujet qui fait beaucoup plus appel à la sensibilité. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a... Enfin voilà, c'est entre le boulot de musicien où la part technique est très importante, même si la sensibilité l'est aussi. Juste la technique d'un musicien, en tout cas, petite parenthèse, peut procurer de l'émotion à l'auditoire, quand même si le gars c'est une machine. Alors qu'en photo, la technique pure, c'est beaucoup plus minime. Mais par contre, la part de sensibilité est beaucoup plus importante. Et donc, je vois par exemple dans ce travail-là, je suis vachement plus obligé de faire partir mon côté sensible. Et donc, on dira. Attention, gros cliché encore, mais je vois là-dessus sur la part de féminité qui est en moi.
Oui, mais bien sûr. Et l'énergie féminine.
Ouais, voilà. Enfin, je trouve ces clichés nazes, mais en tout cas, ils sont une réalité dans l'oreille de plein de gens. Donc, jouons dessus. Et donc, ouais, dans ces moments-là, je vais être beaucoup plus maniéré, faire beaucoup plus sortir ce truc sensible. Et c'est arrivé plein de fois qu'on me dise « Ah, mais ah, je pensais que t'étais homo, en fait. » Et alors que, bah non. Non, pas que je sache. Et donc ouais, c'est ce qui est assez drôle. Enfin moi, l'art étant vraiment un moyen d'expression, et c'est vraiment une partie de moi. Je sais que même quand des personnes qui me connaissaient de mon travail de musicien m'entendaient parler photographie, me disent waouh, qu'est-ce que t'as changé, etc. Je suis en fait bah, pas du tout. C'est juste qu'on n'avait peut-être pas discuté avant parce que tu m'aurais posé des questions sur ma vision de la musique et de quoi et autres. Il y avait une énorme part de sensibilité d'écoute et voilà, je m'en servais beaucoup. Mais ça paraît, peut-être ça transparaissait.
Tu l'exprimais moins.
Oui, voilà. C'était juste. J'étais dans un truc. Parfois, on me disait ah ouais, t'es super technique comme batteur, etc. Je me disais ok, bah, t'as peut-être pas tout écouté ou tu m'as peut-être pas vu dans tel contexte. Parce qu'aussi, selon le type de musique, tu
fais ça. Tu peux sortir des petits ballets.
Ouais. En tout cas, dans le jazz, en tout cas, ta partie de sensibilité sera plus visible, peut-être, que dans des musiques. Prog-rock ou faire mon parenthèse musique, mais en tout cas ouais j'ai eu beaucoup sur le savoir qu'est-ce que c'est d'être un bonhomme et ouais je ça m'a fait poser
tu te sens un peu schizophrène pour ça, c'est ça, ou
non? C'est-à-dire que moi j'ai toujours été très sensible, très c'est quoi le synonyme, il y a un autre mot pour ça, sensible,
émotif,
oui. Mais du coup, selon
c'est quoi
les.
C'est quoi le mot déjà pour exprimer les émotions?
Oui, émotif. Et du coup, bon, après, moi, depuis tout petit, c'est des trucs où naturellement, j'ai fait oula, on va bloquer tout ça, on va fermer, on va verrouiller tous ces trucs d'émotions. Donc ça, c'était pas un rôle, quoi, ça s'est fait naturellement. Et l'art, peu à peu aussi, vachement désamorcer ça, au fur et à mesure des années, déverrouiller.
Qu'est-ce qui a fait que t'as verrouillé?
Une enfance un peu dure, un père dur, après de fait de... Ouais. Oui, enfin voilà, une partie en toute enfance et préadolescence assez complexe, voilà. Donc après, tu rajoutes à ça d'autres expériences douloureuses, qu'elles soient amoureuses, relationnelles, des décès, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un moment quand tu es relativement... Pas relativement, quand tu es très sensible et émotif, c'est beaucoup plus simple de mettre des gros verrous partout. Donc ça j'ai très bien fait ça. Et ce qui parfois surprend aussi des gens dans l'intimité en disant « Ah mais tiens, mais t'es comme ci, comme ça », je fais « Oh, on dirait pas ». Je fais « Bah oui, les verrous sont bien mis ». Donc voilà, et au fur et à mesure des années, t'apprends un peu à les faire péter au bon moment, et puis l'art, meilleur vecteur d'expression, en tout cas de mon point de vue, pour ce genre de choses, quoi. Donc, voilà.
Le mec voulait dire tout ça hors antenne. C'est-à-dire que. Je pense qu'on t'a fait désamorcer.
Ouais. Mais.
quand même. Tu voulais. Enfin, t'avais tout ça à dire et t'étais quand même pas persuadé que ce soit intéressant que tu
fasses. Non, c'est pas ça. Je me suis dit. Je me suis dit, bon, on en parlera un moment parce qu'en fait, presque j'aurais pu, avant qu'on commence, vous dire, bah tiens, on pourrait parler de ça. Tu vois, en tant que
le gars qui est tout prep.
Ouais, j'ai des points, on va aller de point en point.
Okay. Ouais,
laissez-moi mener ma propre interview.
Non, mais voilà, après, c'était aussi de me poser la question de qu'est-ce qui serait intéressant de raconter. Donc, je sais que cette part-là, c'est un truc qui m'a fait un peu réfléchir. C'est sur la position de dire c'est quoi jouer au bonhomme. Et parce que, voilà, c'est cette nature très... je suis un mec. Ou le côté ultra sensible ou autre. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir la perception des autres par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à penser que je vais être homo juste parce que je vais laisser sortir ma sensibilité. Même d'un côté.
Par filou, bro, vraiment.
De quoi, pardon?
C'est l'histoire de ma vie, mais t'inquiète.
Mais oui.
Beaucoup de gens pensent que Fab est homosexuel, en partie parce que t'as un magazine de meufs, mais aussi pour d'autres raisons. Je pense qu'ils sont juste. T'es pas un Sylvester Stallone dans l'âme. Quoi.
Réponds pas si tu trouves ça trop perso, mais t'es allé en thérapie pour bosser là-dessus ou pas?
Très brièvement, par curiosité, il y a pas longtemps, par rapport à une expérience un peu douloureuse, je me disais, tiens, on va essayer ça. Et bon, ça a pas duré longtemps. Après, j'ai.
Ça t'a gonflé un peu? T'étais pas prêt?
Peut-être, je sais pas. Ouais, t'as pas été.
C'est un vrai sujet, tu sais, les histoires de santé mentale chez les garçons qui ont tendance à pas.
Oui, c'est beaucoup moins diagnostiqué, c'est beaucoup moins signalé. Il y a beaucoup de mecs qui partent du principe que c'est comme ça qu'ils sont. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est des troubles qui pourraient être, ou pas forcément même des troubles mentaux en parlant vraiment de maladies mentales, mais juste en fait des choses que la psychothérapie, par exemple, pourrait les aider à dépasser. Et il y a une vraie... dans le tout premier épisode de The Boys Club, je recevais Arthur, mon copain, et le titre de l'épisode, c'est une citation de lui qui dit « Le premier réflexe des mecs, c'est de s'en sortir tout seul. » Et je pense que c'est une réalité pour plein de mecs. Et du coup, il y a le côté... même si je sens que, par exemple, je mets des verrous sur mes émotions parce que j'ai peur d'être vulnérable si je les laisse sortir, je vais pas demander de l'aide, je vais pas en chercher, je vais juste genre « Oh, c'est ma vie maintenant, c'est comme ça qu'on va faire les choses pour toujours. » Mais cela dit, toi, tu as trouvé via l'art une façon de faire péter les verrous, et puis en même temps, moi, en fait, on se connaît bien, mais pas... on se voit pas si souvent, tu vois, et... je t'ai jamais senti comme un mec qui bloque ses émotions. Tu vois, tu m'as très vite parlé de plein de trucs, de tes rendez-vous avec des meufs, de chacun d'amour, de ta mère, de plein de choses qu'on
mais
pourrait considérer comme intimes.
Ça dépend sans doute des contextes, quoi. C'est ce que
Dis. Ou puis après, au mesure des années, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, j'aurais jamais eu les mêmes conversations. Enfin, tu apprends à faire péter les verrous et en garder bien verrouillés d'autres, parce qu'il faut quand même. Et
En vrai, il faut pas.
Ouais.
C'est possible de vivre avec.
Mais après le côté je m'en sors tout seul ou autre, oui ça à fond, toujours un peu trop fait ça, quoi. Donc après tu s'empêches pas de lire beaucoup, pas mal de lectures aussi sur l'histoire de pathologie mentale, parce que tu as des personnes qui sont pas mal touchées dans ce qui t'entoure, et tu te dis ah bah tiens, peut-être ça résonne avec d'autres choses. Ouais, ça là-dessus j'ai pas mal documenté, assez intéressant. Donc mais non, voilà.
Tout ça pour pas parler de ta bite, quand même. C'est une longue dégression.
Mais moi, il y avait un truc qui me faisait réfléchir, mais qui fait résonance à ce qu'on racontait il y a 2 secondes, de ce truc de jouer au mec ou de laisser faire sortir cette part sensible dans le rapport, en tout cas, de séduction, donc qui va être, moi, dans mon cas, par rapport aux femmes. Il y a un truc très bizarre, c'est que je sais que d'avoir naturellement beaucoup fait, je perds ma voix et j'arrive,
elle est partie. Je veux plus parler.
Je suis revenu. Et pas par rôle, mais parce que j'allais voir vraiment cette stature, enfin de plus jeune, en tout cas d'être. Je verrouille toutes mes émotions, je suis un gros bonhomme, je suis batteur, machin. Et d'avoir vraiment eu cette position très mec, très dominante, très.
Prends le contrôle, quoi.
Ouais, voilà, très côté masculin. Voire même absence totale de sensibilité et d'émotion, genre sociopathe, quoi, enfin, mais entre guillemets cliché, hein. Mais je sais que, enfin, par exemple, c'est souvent très attirant, ça a été, enfin, on me l'a dit plein de fois, le côté très attirant du truc mec qui n'a rien à foutre, enfin, le côté aussi fuis-moi je te suis, tu vois, d'être dans ce truc, non, moi je m'attache pas, machin.
Les bad boys.
Ben ouais, et dans ça, tu t'aperçois qu'en fait, c'est très attractif. Tu dis ok, après on parlera pas de cette logique de vouloir forcément aller vers quelqu'un qui te fuit, enfin bon bref, ça c'est encore...
Ah ça, c'est un syndrome de l'infirmière.
C'est un autre problème, de l'infirmière, mademoiselle, et vous tomberez sur un excellent article sur ce qui fait que peut-être vous êtes attiré par des gens qui n'ont pas l'air tellement chaud.
Ah mon dieu, il est blessé, je vais le réparer, je vais en faire une personne.
Je vais être celle qui trouve la faille dans l'armure. Et
celle
qui
ou celui, d'ailleurs.
La seule personne, oui, mais... mon expérience, je suis une femme, j'étais celle. Voilà, ouais. Car je me suis fait bolosser par la vie et je me suis auto-bolossée aussi. Donc oui, je comprends le,
donc tu dis
la
que donc pour excuse-moi mais je t'ai coupé mais tu disais que tu as découvert que ce truc-là était séduisant?
Non, enfin je l'ai analysé en fait. Après tu vois après coup au fur et à mesure des retours, des expériences, des années, tu t'aperçois que enfin même la personne te le confie au début non, tu avais un côté un peu impressionnant, machin ou autre, moi c'était ça m'attirait vachement. OK, bon pourquoi pas. Et et parfois de à l'inverse de cette part un peu plus sensible ou autre et des personnes qui vont voir dans des contextes où globalement plus photo, j'ai déjà eu le retour de oh, moi le côté d'un mec trop féminin ça m'attire pas du tout, et à l'inverse le côté hyper fermé et tout à fait insensible sur le côté moyen ou long terme ça pose aussi problème. Donc t'as beaucoup, je me suis questionné sur le en fait faut faire quoi, tu vois, c'est faut faire quoi quand enfin en tout cas quand tu tombes face à quelqu'un qui te plaît, à qui tu, alors tu te dis ben faut être soi. Ok, d'accord, il n'y a aucun problème, il faut être soi. Mais.
C'est une vraie question, ça. C'est ouais. Hyper intéressant.
Mais et ça, je sais qu'il y a plein de fois où, même en ayant connaissance de ce truc-là, et sans vouloir vraiment jouer dessus, mais en, tu vois, c'est comme la première fois quand quelqu'un te plaît beaucoup, tu ne vas pas lui dire au bout de 24 heures, tu me plais beaucoup. Voilà, la personne va fuir, forcément, quoi, ça fait flipper, quoi. Donc, tu doses un peu ces choses-là. Mais au bout d'un moment, tu le doses trop, donc la personne se barre parce qu'elle pense que tu t'en fous. Et il y a cette espèce de truc ultra compliqué dès que t'as un peu entre l'apparence de je suis un bonhomme et en fait, non, je suis très émotif, sensible, etc. Et en fait, ça ne va jamais. Il y a un peu une sorte d'entre-deux avec, bah, d'ailleurs, peut-être vous en parlez dans un article aussi, de. Le côté, alors, entre guillemets, un peu connard, c'est-à-dire le mec qui s'en fout, qui est juste là, non, moi je m'attache pas, machin, est malheureusement hyper attirant. Combien on a de personnes dans notre entourage qui sont attirées vers des personnes comme ça. Et puis le moment où, bah, finalement, la personne s'aperçoit que bah, t'es plutôt pas comme ça, presque elle va se mettre à fuir. Tu vois, c'est. Et je sais que j'étais beaucoup confronté à ce syndrome-là, de fuis-moi, je te suis, d'une personne qui. Va vraiment vers moi, et au moment où je commence à lui dire « Hey, tu sais, je... » Avec les mots vraiment tête, tu tâtonnes. J'aime beaucoup qu'on passe du temps ensemble, tu vois, sous-entends, essaye de lire entre les lignes que je viens de te dire, et ben, plus tu vas vers là, plus la personne se barre. Et ça, c'est un truc que j'ai répété des milliards de fois. Alors après, le point commun à ce problème, c'est moi, ok. Mais... C'est un truc qui me fait beaucoup réfléchir, ça.
Mais c'est des gens qui, enfin, c'est des gens ou c'est des filles qui viennent vers toi parce qu'en fait elles sont attirées par ce que tu représentes extérieurement, je pense, hein, de ouais. Base. Le batteur, machin, enfin, tu vois, le mec grand, beau, avec les cheveux comme ça et tout, tout ça, et qui s'imaginent pas en fait que c'est possible d'avoir des émotions dans un gars comme ça, d'avoir cette dualité, non, tu crois pas?
Ah, je sais pas. Après, il y a eu plein de.
Bon, s'il y a des filles qui sont intéressées, on peut peut-être passer une annonce.
Vrai, je pense que
ce qu'on va faire plutôt, oui. On va monter une agence matrimoniale plutôt que faire psy. Ça,
allons-y.
Ça,
si ça vous
va...
voulez faire,
ça
va tout Thomas O'Brien.
Après,
et que
j'ai eu plein de.
Vous êtes à l'aise avec le fait qu'il a des émotions.
Appelez-le. Et qu'il soit en même temps dominant.
Oui.
C'est ça.
Mais truc. Après, j'étais par différentes périodes de vie, j'ai eu. Parce qu'après, j'analyse beaucoup après coup. C'est pas de jouer à ci ou ça, c'est juste que certaines périodes, j'étais plus comme ci, plus comme ça ou autre. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Je sais pas.
Merde, je me suis perdu, j'arrive.
Non, parce que Fab parlait du fait que en fait, les filles dont tu parles étaient attirées par cette façade de dominant qui est batteur. Machin.
C'est ça, merci. Et je me suis encore un peu perdu, j'arrive. Ah, c'est le bordel là-dedans. Non, alors en fait, oui. Alors, c'est pas ça. Jean-Michel raconte mal. j'ai eu testé plein de schémas parce qu'il y a des périodes où j'ai toujours été très façade, tout verrouillé et autres, et d'autres beaucoup plus sensibles, d'autres un peu plus les deux. Et il y a beaucoup. Soit de jouer la carte tout le temps, non, moi je suis très dominant, bonhomme ou autre, ça tient pas. Après, si tu montes trop rapidement. De laisser aller trop vite le côté
Tu me plais.
Ouais, alors que la personne vient te le dire en plus. J'ai déjà eu le schéma qu'au moment, alors ça, au bout de quelques période de temps très court, la personne te dit clairement que ça lui fait beaucoup de trucs de te voir, mais qu'elle commence à avoir un sentiment. Et au moment où tu lui dis, bah moi aussi, la personne dit, bon bah il faut qu'on arrête de se voir. Tu vois, j'ai déjà eu des schémas comme ça. Oui, non mais attends, mais ça s'est produit plein de fois quoi, ce truc-là.
C'est des rôles, tu vois. La femme a le droit de s'attacher trop vite au mec. Si le mec le fait, c'est genre, ah c'est une vicose en fait, c'est un boloss. Donc, enfin,
je tombe des nu.
Ah non mais bah, moi le premier, le moment où ça arrive, tu fais what.
Mais on était d'accord.
Ouais ouais, mais tu sais, tu te dis, mais si c'était un scénario de film, tout le monde dirait c'est n'importe quoi. Bah non. Et
c'est ma vie.
Voilà. Ou à l'inverse, tu as une relation pendant, même sur l'espace d'un an, où tu fais par plein de signes, genre, c'est vachement bien ce truc, bidule. Et au bout d'un moment, la personne se barre en disant, oh, mais de toute façon, je pensais que tu en avais rien à foutre de moi. Et tu fais, mais je. Ok, donc t'as trop dosé, mais en même temps, t'as fait des grands signes tout le temps. Mais ouais, c'est en fait le questionnement étant que pour un gars d'être trop émotif et trop exprimer ses sentiments, il y a vraiment un problème par rapport à ça dans les rapports intimes. Dans le rapport sociétal, il y a pas de problème. Enfin, ça pose moins de soucis. Mais en tout cas, dans le truc de ouais, de la base de ce podcast, c'est un peu de c'est quoi être un homme, tu vois, et cette part hyper insensible ou très sensible, cette espèce de dualité, je sais que c'est souvent un questionnement de doit-on ou pas l'exprimer, à quel moment, comment, genre le mec qui pleure, quoi, est-ce que ça c'est bien ou pas bien, à la fois parfois t'entends ah c'est mignon, et d'autres fois quand t'es en pleurs parce que la personne t'a quitté tu sais que ça te joue pas du tout en ta faveur, là, et à l'inverse, quand la personne te quitte, si tu montres que t'en as rien à foutre, la personne revient. C'est espèce de truc là, ça c'est très 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 nul d'où ça. Et donc
work in progress.
Arrêtez de faire ça, tout le monde, tous ceux qui écoutent ce podcast, arrêtez de faire ce truc, c'est extrêmement nul.
Peut-être dire aux filles aussi, auto-analysez-vous peut-être sur votre rapport à ce que vous attendez de la part d'un mec, quoi.
Oui, clairement. Et t'es pas le seul, dans tout cas.
Je sais que
c'est très commun. Pas mal de forums où les mecs parlent de leur rapport à la masculinité, car je bosse. Et ça revient souvent le côté. Les femmes disent qu'elles veulent un mec émotif et qu'elles veulent pas un Stallone qui parle pas et tout. Et en fait, ça m'est arrivé deux fois de pleurer devant ma copine, et en fait les deux fois je me suis fait bolosser entre guillemets, ou en tout cas elle a une réaction négative au fait que je pleurais, alors que si tu lui demandes autour d'un café tu veux quel genre d'homme, elle va dire moi je veux vraiment un mec qui a pas peur de pleurer et tout, mais en fait confrontée au truc, mais bah il y a une réaction négative de ah non, je n'aime pas le fait que tu pleures, et pas parce que ça me rend triste, mais parce que tu es mon mec, et ça chamboule les rôles que dans ma tête je nous ai accordés à chacun. Et je pense que, comme dit Fab, work in progress, c'est en challengeant les critères et les rôles féminins et tout comme masculins, qu'on finira par arriver à juste des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les pleurs, et pas à un truc genré de, pour la plupart des mecs, c'est pas anodin de pleurer, et ça peut même leur porter préjudice, ce qui est débile, c'est juste un truc humain, quoi, de pleurer.
Ouais, ou comme de dire trop le côté... tu me plais, quoi.
Oui, c'est ça, d'exprimer des sentiments d'une manière générale.
Il y a une sorte de timing par rapport à ça. Moi, combien de fois je me suis aperçu après coup, tu l'as fait trop tôt, ou ben non, trop tard, tu vois, et tous les moments où tu dis, bah je l'ai fait quand je l'ai senti, oh bah apparemment c'était pas le bon moment non plus, tu vois, c'est. Et donc, du coup, au fur et à mesure des années aussi, tu verrouilles plein de trucs, quoi. Donc, dernièrement, j'avais trop mis de verrou, donc apparemment ça a été trop long. Quand la personne te dit je suis très surpris parce que je pensais que t'avais rien à foutre, tu fais ah c'est marrant parce que je pensais ouais non là vraiment j'ai tout sauf rien à foutre, quoi. Tu dis bon ok.
Alors est-ce que tu n'as pas cette discussion, peut-être que la solution c'est d'avoir cette discussion avec la personne et de dire voilà comment ça se passe ma vie d'habitude, tu vois, de vraiment lui décrypter tout le truc de A à Z plutôt que d'être juste dans le dans le, comment dire, bah, dans, voilà comment ça se passe et voilà à la fin comment ça se passe. D'être plutôt dans le décryptage de ce qui se passe en général quand tu le fais et de mettre la personne face à ce propre décryptage-là. Peut-être que c'est ça la solution finalement.
Oui, j'ai essayé un peu, sans doute de la mauvaise manière. Donc,
oui, mais... ça, après c'est un chemin.
Hein. Oui, ça se fait prendre un jour.
Tu pourras leur envoyer The Boys Club, tu vois.
Écoute ça.
Oui, avant une date, tu fais, bon, tiens.
Ouais, c'est ça.
On a bu deux cafés, c'était super. Écoute ce podcast d'une heure, ça te dira tout ce que tu
veux. Avant les cafés, même, tu vois, je pense que ça peut être.
Oui, c'est ça, c'est avant les cafés.
Au moment du match Tinder. Bonjour, tiens, écoute.
En description Tinder, parfait.
On te mettra en SEO, t'inquiète, t'as plus qu'à donner ton nom.
Parfait.
Thomas O'Brien.
J'espère que ce sera le premier résultat Google.
Parfait, on fait ça.
Non, c'est faux, tu as quand même besoin de gagner de l'argent.
Mimi, ça fait 1h12 qu'on parle.
Oui.
Mais le début, j'ai l'impression qu'on disait plein de trucs.
Tais-toi.
Chut. Non, c'est vrai.
Chut.
Est-ce qu'on fait un rapide point bit?
En fait, c'est comme tu veux. Est-ce qu'on fait un rapide point bit ou pas? Parce que Thomas.
Est-ce qu'on fait un épisode? Spécial sur ta bite.
J'ai envie de dire, Thomas a réussi à nous intéresser suffisamment.
Oui.
Pour qu'on esquive le sujet qu'il n'a pas envie, dont il n'a pas envie de causer depuis tout à l'heure. En tout cas,
non, c'est pas ça. C'est, je trouve pas ça intéressant. Après,
voilà.
Mais c'est, enfin, je sais pas.
On peut lui donner des kudos pour ça, tu vois. On peut lui dire bravo,
oui,
bien joué.
Bravo parce que tu as fait une diversion.
N'en parle pas de ta bite. Il est con, putain. Il est en train de montrer la taille. Mais mec, ok, bon, voilà, t'as perdu. T'es obligé de parler de ta bite maintenant.
Du coup,
non, mais c'est si vous voulez.
Comment définirais-tu la taille de ton pénis?
Eh bien, je fais 1m92 et quand tu fais 1m92, tu chausses pas du 42.
Alors ça, c'est faux. Alors
c'est
ça, c'est faux, mec.
Il y a tellement de grands mecs. Fait...
Okay, c'était pour éviter
j'ai
la question.
J'ai fait du basket, d'accord. Donc des grands, j'en ai vu. Et j'ai vu des tailles de toutes sortes sur des grands mecs. Donc
non, c'est
faux.
Très conséquent, quoi.
Voilà.
C'est,
Et tout comme, tu peux avoir des petits mecs tout petits chétifs avec des chibres immenses.
Non,
quoi.
Mais c'est vrai. Ouais, oui, je sais qu'il n'y a aucune corrélation.
C'est conséquent.
Comment dire ça?
T'as dit conséquent, je trouve que le terme est intéressant.
Non, c'est souvent très grand, quoi. Oui,
il
oui,
parle
c'est...
de sa vie, il dit c'est conséquent.
J'essaie de trouver un mot.
Conséquent, ça marche pas.
Ouais, c'est très gros, oui. Voilà.
Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était spécialement conséquent par rapport à...
Le retour en face, on me dit « Waouh, j'ai jamais vu si gros !» C'était Mickey.
Avec cette petite voix.
C'était Mickey.
De peur. Oh, Mickey, putain, le mec, il a sodome Mickey, c'est chaud.
J'ai des images mentales compliquées en tête.
Oh, plutôt. Putain, non, pas plutôt non plus. Le
c'est
mec.
Chiant,
oui.
C'est chiant, le Mickey. Et est-ce que ça t'a déjà... Non, je vais reformuler. Est-ce que tes rapports avec ta bite sont positifs et cordiaux?
Oui, tout à fait, ouais. Après, non, le seul truc intéressant à dire dessus, c'est que ça apprend l'écoute. Ça développe en tout cas l'écoute en face du partenaire, parce que t'as pas envie de lui faire mal, ou en tout cas, pas comme ça.
Je te vois, Mimi, en train de te retenir de rire, désolé, mais je ne peux pas. me retenir.
Donc, parce que bah, du coup, tu, même pour certaines pratiques, ça nécessite un peu plus de...
Travail. En amont.
Voilà. Et moi, c'est très... Le mot, c'est quoi? Ça nécessite précaution. Bah, j'ai presque dire handicapant, parce que parfois, pour justement certains trucs, c'est pas limite pas possible, parce que c'est juste la personne en face a une appréhension et du coup ben ça, il faut passer cette appréhension, mais oui, c'est sûr que quand tu es très gâté par la nature et si tu y vas comme un bourrin, etc., je pense que ça, du coup, le combo est assez mauvais et donc du coup voilà, moi je sais, enfin, l'écoute dans ce domaine sexuel étant peut-être le secret, enfin pas peut-être, étant le secret pour que ça soit ultra cool. Du coup, ça apprend à développer ça. Et c'est assez chouette. Donc, merci la nature. Très bonne génétique là-dessus. Ouais, c'est cool.
T'as pas été éduqué par le porno?
Si.
Et donc, t'as réussi quand même à passer ce truc de machin, ma grosse bite dans sa chatte et tout. Faut quand même développer l'écoute.
Non, dans le porno, tu les trouves normales après.
Non, mais c'est parce que. Putain, le mec, c'est pas du tout ce que je veux dire. Le mec, il rapporte tout à la taille de... Je te parlais pas de ça, mon vieux.
Mais
d'accord. Je te parlais pas de ça. Je te parlais de l'éducation du porno. Ah. De l'éducation au porno qui est vraiment ultra.
Machin, au porno bourrin, parce qu'il y a, plein de types de pornographie.
Non, enfin, l'immense majorité du porno est plutôt dans.
Ce qu'on appelle le porno.
Alors, on va comparer comme la musique. La musique la plus populaire est souvent la plus. Pas forcément la plus qualitative, malheureusement. Et la pornographie est en fait un vecteur d'expression. Donc, du coup, il y a Céline Tran, ancienne actrice en ce moment, qui parle beaucoup de ça. Enfin, bon, c'est assez médiatisé, mais. Sur la pornographie, ouais, j'ai toujours une curiosité par rapport à ça. Et pour faire ce parallèle à la musique, c'est comme quand t'es musicien, t'écoutes de la musique, tu vas chercher de l'inspiration dans la musique des autres. Je trouve que parfois le vecteur pornographique a eu un intérêt par rapport
à ça. Alors, écoute ma question et mets la taille de ta teub de côté, d'accord? Écoute ma question. Comment t'as fait pour passer de l'éducation au porno? Et notamment parce que tu pouvais sans doute te... Moi, j'ai jamais eu cette possibilité, tu vois, de me dire « Je vais faire exactement comme ce mec qui est monté comme un cheval. » Parce que je suis monté de façon relativement normale, si tu veux. En fait, c'est vachement cool d'écouter parce qu'en vrai, je peux éventuellement faire mal ou il y a une appréhension en face de moi, ce qui est rarement le cas des actrices porno puisque elles-mêmes sont dans ce truc-là. Comment t'as fait pour passer de ça à ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, mais il n'y a pas eu de questionnement. Enfin, c'est-à-dire que le fait de l'écoute de l'autre a toujours été une évidence, en fait. Okay. Hein,
c'est pas le cas de beaucoup de mecs. Hein,
pour ma part, en tout cas. Okay, voilà, pour ma part, ça a toujours... c'est... Est-ce que la personne en face a vraiment envie? Enfin, tu vois, ça commence là, quoi. C'est le truc où même si tu sens, si tu perçois une sorte de gêne, de malaise, parce que la personne a juste... est juste impressionnée pour X raison. Enfin, peut-être, voilà, c'est... Ben, du coup, tu... Enfin, j'ai toujours été vachement réagi à ça. Donc, et après, déjà, avant, il y a ça. Pendant aussi, tu es très réceptif. Et donc,
Même quand tu étais ado et tout, tu as la sensation que ça a jamais. Tu as toujours eu ce truc-là. Ouais. Pour le coup, c'est un truc très. C'est un truc très féminin, entre guillemets, tu vois, d'être dans l'écoute. Mimi, dis-moi.
Ben ouais, non, j'ai toujours eu. En tout cas, sur ce sujet, ouais, d'être toujours aware, comme dirait JC. Et. C'était pour caler un petit JC. J'ai toujours eu ça. Après, le côté, ça n'empêche pas, et même d'ailleurs, le côté ultra violent et toutes les pratiques un peu ouf, où la personne demande aussi même d'avoir une forte violence, un rapport à la douleur ou autre, plus tu vas là-dedans, plus tu te dois d'être à l'écoute. L'écoute sur l'autre, c'est là-dedans, c'est le sujet, sur le domaine du sexe le plus intéressant, quoi. Et donc après il y a ce petit truc physique qui a fait que rapidement tu faire mal à la personne juste par pénétration, c'est pas cool. Après du coup tu doses ça et puis simplement la sensibilité personnelle de faire attention à ce qui se passe, quoi, simplement. Ouais.
Merci beaucoup, Thomas, d'être venu dans The Boys Club.
Ben, merci à vous.
Merci, Fab.
Merci, Thomas. Merci,
Mimi. M'accompagner toutes les deux semaines dans cette belle aventure.
C'est toujours un grand plaisir.
Sur le fleuve de la masculinité.
Fleuve tumultueux.
Oh là, oui, il y a des rapides. Hein. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club que vous pourrez trouver sur toutes les plateformes de podcast, sur SoundCloud et sur iTunes. Si vous avez aimé ce podcast, mettez des pouces bleus et des commentaires sur YouTube. Et des étoiles, idéalement 5, sur iTunes, car ça lui permettra d'être plus écouté et mieux référencé. Et si vous voulez voir le travail de Thomas, il y a tous les liens dans la description. Et des liens sur plein de choses dont on a parlé, comme par exemple le syndrome de l'infirmière, pour agrémenter votre écoute. On va manger ? On va manger de l'eau sans miel.
Je vais vous faire un petit plat, je vais vous concocter un petit truc.
Petit couscous. Allez. Bisous. Merci Thomas, merci Fab.
Salut.
À dans 2 semaines.
Bonjour.